RMC, midi, 14h, Neumann le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Salut les amis, toujours fidèles au poste, c'est Laurent Neumann.
Salut tout le monde, Alexandre Devecchio, fidèle au poste également.
Bonjour à tous, c'est Laure Clausier, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC. Les Français évoluent sur la vaccination, ils sont majoritairement pour la vaccination obligatoire désormais et des contraintes pour les non-vaccinés. On va en parler dans un instant, mais avant, quel est le programme, Lisa Marie, de C'est bon à savoir? C'est à 13h50.
Oui, imaginez travailler 4 jours et avoir 3 jours de week-end. L'Islande l'a testé et c'est un immense succès, alors on en parle tout à l'heure.
Oui, militons pour la semaine de 4 jours. C'est un combat que je trouve... Il faut le mener. Voilà, je vous le dis, 4 jours, ça me paraît bien. Allez,
mais
avant.
D'où tout ce qui te fait plaisir, on est d'accord.
Eh bien, milite avec moi pour la semaine de 4 bien, jours. Excellent. Mais 4 jours, on en parlera avec Lisa Marie. Intense, attention. Avant, intense. On va parler des Français qui évoluent. Selon un sondage Elab pour BFM TV publié hier, la tendance à la vaccination est en net progrès puisque ce sont désormais 3 Français sur 4 qui disent vouloir ou se sont déjà fait vacciner contre la Covid-19. Un chiffre qui ne cesse de progresser. En ce qui concerne la vaccination obligatoire à l'ensemble de la population, il y a un consensus quasi total désormais, 61% des sondés se disent favorables pour les adultes et les adolescents et la fracture vaccinale commence à se faire sentir entre les vaccinés et les non vaccinés. 61% des Français également se disent favorables à la mise en place de mesures de restriction comme l'interdiction d'accès à certains lieux ou l'interdiction d'exercer sa profession si on n'est pas vacciné. Pour Elisabeth Borne, la ministre du Travail, c'est clair, s'il y a obligation vaccinale, il y aura des licenciements, on l'écoute.
Quand on a une obligation de vaccination et qu'on ne la respecte pas, c'est une faute. Donc ça peut entraîner des sanctions disciplinaires allant jusqu'au licenciement. Et donc ça fait partie aussi des sujets qu'on doit évoquer avec les organisations patronales et syndicales demain.
Voilà, elle était sur Europe 1 ce matin. Alors et vous, est-ce que vous êtes favorable à des restrictions pour les non vaccinés, Laurent ? Tu es pour ?
Oui, alors très honnêtement, j'ai longtemps été contre.
Oui, on se souvient.
Mais sauf qu'à un moment donné, si on est tous d'accord pour dire qu'il faut absolument tout faire pour tourner la page, passer à autre chose, arrêter les confinements, les couvre-feux, etc., ben moi je dis qu'il faut choisir. Et moi, tu sais qu'à titre personnel, je suis plutôt contre la vaccination obligatoire. Mais si on ne veut pas de la vaccination obligatoire, alors, bah oui, il faudra sans doute des restrictions pour les non-vaccinés. Et ça pour au moins 2 raisons. D'abord pour une raison sanitaire, parce que les non-vaccinés, par définition, bah, ils font beaucoup plus circuler la maladie que les personnes vaccinées. Donc pour des raisons sanitaires, il faudra peut-être leur interdire l'entrée dans certains lieux. On le fait déjà avec le pass sanitaire, puisqu'il faut un pass sanitaire pour rentrer dans un stade, pour rentrer dans un concert de plus de 1000 personnes, pour aller dans les forums et les salons où il y a beaucoup de monde, etc. Peut-être que demain, il faudra élargir ces activités-là. Bon. Mais surtout pour inciter les gens à se faire vacciner. Parce que ce sera tellement douloureux de ne pas aller dans certaines activités sociales de tous les jours. Je pense par exemple si on étendait ça au restaurant, si on étendait ça au salon de coiffure, au salon d'esthéticienne, au théâtre, au cinéma, etc. Bah, ce serait tellement compliqué pour les non-vaccinés que ça deviendrait une incitation à aller se faire vacciner. Donc ça fait au moins 2 bonnes raisons. Mais si on ne veut pas de la vaccination obligatoire, ce que je peux parfaitement entendre à titre personnel, malheureusement, on risque de devoir aller vers certaines contraintes de ce type, oui, pour les non vaccinés.
Alexandre, tu es contre ?
Oui, je pense qu'il n'y a pas assez de chômeurs dans ce pays. On va mettre au chômage ceux qui ne voudront pas se faire vacciner.
Attends, ne me réponds pas ça, c'est le contraire. Je te dis, puisqu'on ne veut pas de la vaccination obligatoire, qui, elle, tu as raison, peut conduire à des licenciements,
tous les autres chemins.
Eh ben, il faut passer par les autres chemins. Mais on ne peut pas dire non à tout.
Non, mais je pense que nous n'en sommes pas là. On a commencé par dire que 3 Français sur 4 souhaitaient se faire vacciner. Je pense qu'on peut vaincre cette épidémie, pas l'éradiquer, parce que de toute manière, il faudra vivre avec le virus et sans doute faudra se refaire vacciner chaque année. Mais voilà, je pense qu'on peut vivre avec le virus tout en respectant ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner. À partir du moment où les populations les plus à risque sont vaccinées, on sera sorti de cette crise. Donc je ne vois pas pourquoi on est dans ces injonctions-là. Et vous imaginez la société à de vitesse que vous créeriez si vous établissez ce type de contraintes. C'est pas souhaitable et pas réaliste. Donc là encore, on fait peur aux gens, on est dans la conversation. Je pense qu'il vaut mieux faire une dynamique d'entraînement d'ailleurs.
T'es d'accord, il y a un point sur lequel on peut être d'accord, toi et moi. Si tu ne veux pas de la vaccination obligatoire, comme moi, si ces restrictions t'ennuient au nom du respect des libertés, très bien. Mais dans ce cas-là, il y a une façon très simple d'échapper à l'un et à l'autre. C'est que les gens aillent se faire vacciner.
Oui, les gens vont aller se faire vacciner.
Et mieux que ça, on échappe au confinement, on échappe au couvre-feu.
3 Français sur 4, il faut simplement expliquer aux Français que le meilleur moyen de tourner la page le plus rapidement aujourd'hui, vu qu'on n'a pas de traitement, qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est de se faire vacciner. Je pense que ça suffit. Il ne faut pas être hypocrite. Si on est contre la vaccination obligatoire, on ne peut pas mettre en place ce type de restriction, puisque mettre en place ce type de restriction, c'est de fait rendre la vaccination obligatoire. Laurent Neumann.
Ouais, enfin, je te rappelle quand même que, un, le vaccin, il est fiable. Deux, il est efficace.
Dit le contraire.
Et trois, il est gratuit. Il est gratuit. On est dans un pays quand même extraordinaire. Les tests sont gratuits, les vaccins sont gratuits. Et en plus, ça nous protège.
Mais tu vas voir au 32-16 qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore envie de se faire vacciner. Ouais. Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Oui, que pensez-vous de mettre en place des restrictions pour les non-vaccinés? Pour nous répondre, direction Twitter, Facebook et l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est avec Laura, qui est infirmière en psychiatrie, qui nous appelle depuis Cherbourg en Cotentin, c'est dans la Manche. Bonjour Laura.
Bonjour à tous.
Toi Laura, tu ne te fais pas, tu n'es pas vaccinée et tu ne vaccines pas tes patients.
Non, tout à fait. Alors moi, j'exerce en psychiatrie. Voilà, depuis ça va faire un an, au mois de septembre, je suis diplômée depuis 2 ans. Et il s'avère que tout ce qu'on entend, etc., ça m'alarme beaucoup. Voilà. Alors moi, je suis plutôt de l'avis d'Alexandre Devecchio. Voilà. Alors avec des petites divergences aussi, parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'a pas de recul par rapport à ce vaccin-là. Donc on ne sait pas les effets. Quand on compte un petit peu ce que Laurent Neumann a dit, pour moi, non, on n'a pas de recul. Un vaccin on ne peut pas avoir d'effet au long terme en ayant un vaccin en un an. Ce n'est pas possible. Alors, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas contre la vaccination. Je trouve qu'il y a eu de grandes avancées. On met en avant Pasteur. Effectivement, on a vaincu beaucoup d'épidémies et c'est très bien. Je suis pour la vaccination, mais pas pour celle qu'on veut absolument nous infliger, nous obliger par rapport au Covid. Parce que pour moi, il n'y a pas assez de recul.
Ce qui veut dire que toi, si on t'oblige, Laura, dans ton métier, si demain tu ne peux plus travailler parce que tu n'es pas vaccinée, qu'est-ce que tu fais? Tu pars?
Ah oui, je pars. Je démissionne. Je n'attends pas qu'on me licencie, par contre. Ce sera ma décision à moi.
Donc tu préfères sacrifier ton métier?
Alors malheureusement, parce que moi j'ai choisi ce métier-là justement par cœur, hein. Je le fais avec mon âme, avec ce que je suis. Voilà, je l'ai choisi pour aider mes patients, pour les accompagner, pour un petit peu, alors ça va paraître peut-être un petit peu trop, mais c'était pour cette main qu'on peut leur tendre quand ils sont justement en souffrance. Alors moi je suis plus dans la psychiatrie, donc je peux vous dire que tous les jours j'en entends beaucoup et ça fait beaucoup de mal cette crise sanitaire-là, parce qu'il y a d'autres effets et malheureusement on n'en entend pas assez parler. Et franchement, ça a eu beaucoup d'impact. Et je l'aime, mon métier. Je l'exerce avec mon âme et avec ce que je suis. Et je serais très malheureuse si je devais le quitter, parce que j'ai déjà fait beaucoup de sacrifices pour en arriver où je suis, pour arriver à faire ce métier-là.
Laura, oui. C'est Laurent, pardon. Je t'ai laissé aller jusqu'au bout. Il y a un point commun entre toi qui ne veut pas te faire vacciner pour les raisons que tu as expliquées et moi qui pense qu'il faut se faire vacciner. Le point commun, c'est que j'imagine qu'on a tous les deux envie de tourner la page, de passer à autre chose, d'arrêter avec ces contraintes sanitaires, ces confinements, ces couvre-feux, les confinements et les restrictions sanitaires qui ont fait un mal de chien aux patients dont tu t'occupes, ceux qui sont justement en psychiatrie, la perte en termes de mémoire, de vie active, etc., était terrible pour les patients que tu dois rencontrer. Donc toi et moi, on veut tourner la page. Il n'y a que le vaccin pour le moment qui nous permet de tourner la page.
Eh ben, c'est justement le problème, c'est ce qu'on veut nous faire croire, qu'il n'y a que le vaccin. En fait, ce vaccin a l'air d'être un antidote contre tous les variants. Alors, on a beaucoup de variants apparemment, parce que tous les jours, on nous sort des noms, des mutants, des variants. Enfin, c'est incroyable. Et ce vaccin-là, bizarrement, agit sur tous les variants. Or, il a été fabriqué normalement avec la première souche du Covid. Donc, on ne peut pas dire qu'il agit forcément sur tous les variants, ce n'est pas possible. Et on a voulu nous faire croire que ce vaccin-là allait
Il est possible, Laura, qu'un jour, on découvre un variant auquel le virus ne permet pas de répondre. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'on a une chance absolument incroyable. Pour le moment, c'est efficace, c'est fiable, et ça répond à tous les variants qu'on découvre. Mais peut-être que demain, on va, à force de laisser la maladie circuler, peut-être qu'un nouveau variant va apparaître et que les vaccins n'y répondront pas. Là, ce serait le drame.
Oui, mais alors, ce qui est interrogeant quand même, ce qui peut m'interroger, moi, c'est que l'année dernière, on en était au même point, on n'avait pas de vaccin, et pourtant, l'épidémie a reculé. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que le vaccin, à l'époque, avait fait reculer l'épidémie. Or là, on veut absolument nous infliger ce vaccin-là sous prétexte qu'on va retrouver nos libertés. Or, aujourd'hui, là, vous voulez absolument mettre des restrictions aux non-vaccinés. Pour l'instant, les vaccinés ne devraient déjà plus avoir peur, devraient enlever leur masque, ne plus avoir de distanciation sociale et pouvoir revivre normalement. Or, ils ont toujours cette peur-là parce que, soi-disant, nous, non-vaccinés, c'est nous qui sommes dangereux pour eux. Alors que non, si on suit leur logique, ils sont vaccinés, donc ils sont protégés contre le virus. Donc, si quelqu'un doit avoir peur, c'est les non-vaccinés. Donc, si les non-vaccinés ont peur, ils se font vacciner. Donc, la logique n'est pas bonne pour les vacciner, là.
Ouais.
Laura, reste avec nous, est avec Mathieu, qui lui pense à peu près le contraire de toi, qui est professeur des écoles, qui nous appelle depuis le Jura, au Molune. Bonjour Mathieu.
Oui, allô, bonjour à tous.
Toi Mathieu, tu attends ta deuxième dose, tu penses qu'il faudrait rendre le vaccin obligatoire?
Oui, je pense, alors je vais essayer de répondre un petit peu à ce que j'ai entendu de la part de l'auditrice aussi. Je pense que il faut rendre alors le vaccin obligatoire, en tout cas aussi mettre des restrictions pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, excusez-moi. Pas pour les punir, mais pour les inciter à se faire vacciner. Et parce que je pense qu'il faut aller vite. Il faut aller vite parce que j'entendais parler des variants et ben moi je pense que l'incertitude que certains ont vis-à-vis des effets que pourrait avoir le vaccin, ils pourraient autant se poser la question de si on laisse cette épidémie continuer, il y a tous ces variants possibles qui peuvent arriver et qui pourraient totalement nous échapper. J'appelais aussi par rapport au fait je suis professeur des écoles, je suis papa de jumelles et franchement, moi si je me fais vacciner, vous l'avez entendu, je suis dans le Jura, je suis dans un coin perdu. Je suis pas trop concerné par le fait d'aller au cinéma, au restaurant, tout ça. Moi, si je me fais vacciner, c'est avant tout pour l'avenir des jeunes, des enfants. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, un nouveau variant va peut-être toucher les enfants, à force, on ne sait pas.
T'as peur pour le futur, quoi ?
Tout à fait. Mmh. Et surtout, pour le futur, moi, mes filles, moi, je vais peut-être faire réagir, mais pour moi, les parents et même les grands-parents qui refusent le vaccin sont pour moi entre guillemets irresponsables vis-à-vis de l'avenir de leurs enfants.
Ouais. C'est un peu la question qu'on a envie de poser à Laura. Laura, quand tu dis que tu ne crois pas à l'efficacité du vaccin, que finalement tu ne crois pas aux études scientifiques, tu ne crois pas aux médecins qui sont autour de toi, est-ce que vraiment, je suis désolée de te poser la question comme ça, mais est-ce que ta place est au sein d'un hôpital dans un monde qui doit être un petit peu scientifique?
Alors, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai choisi ce métier-là pour m'occuper des patients. Or là, moi, je prends le problème à l'envers. Pour moi, justement, ce vaccin-là, il n'a pas de recul, donc c'est potentiellement un danger pour mes patients. Mais je suis ma logique. Je le fais pas pour moi parce que je ne sais pas les effets qu'il aura sur moi dans quelques années. Mais je ne le fais pas pour mes patients parce que j'estime que je n'ai pas à prendre cette responsabilité-là, potentiellement, que ce soit dangereux pour eux. Quand vous regardez, en fait, quand vous allez vous faire vacciner contre le Covid, on vous donne un papier par lequel vous devez engager votre consentement et votre propre responsabilité pour vous faire vacciner. Voilà, vous signez un papier. Donc, s'il vous arrive dans quelques temps, dans quelques années, parce qu'on ne peut pas savoir, une maladie auto-immune, comme beaucoup de vaccins peuvent, par exemple, mener, vous signez, voilà, vous vous engagez à signer cette décharge-là. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans tous les vaccins
ça, qui c'est vrai que c'est...
depuis des années?
Ouais, quelqu'un a signé une décharge, parce que moi, personnellement, je n'ai pas signé de décharge. Hein. Je vous le dis tout de suite. T'as signé une décharge, Laurent, quand non. t'as été te faire vacciner? Non. Alexandre, t'as pas signé de décharge?
Personne n'a signé de décharge. Il n'y a pas la garantie de l'État sur ce vaccin en cas d'effet secondaire, en cas de pépin. Et je pense que ça rassurerait tout le monde, surtout si on veut aller vers la contrainte. Je pense que l'État doit s'engager à prendre ses responsabilités.
Voilà. Non, le problème, c'est que le raisonnement de Laura pour ce vaccin-là, le fameux argument « on n'a pas assez de recul », bah, il est vrai, c'est un argument que tu peux reprendre pour tous les nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché. Dès qu'un médicament a une autorisation mise sur le marché, il a eu quelques mois, voire quelques années d'études, mais par définition, tant qu'il n'a pas été utilisé en population générale, tu peux dire « ah ben non, il n'y a pas de recul, je le prendrai que dans 5 ans, 10 ans, pour voir s'il n'y a pas
d'effet secondaire ». Les essais sont plus longs sur... habituellement.
Non, mais je rappelle quand même qu'on est à 3 milliards d'injections hein, et que le virus, encore une fois, a tué beaucoup plus de gens que le vaccin. Hein.
On va continuer à parler des restrictions pour les non-vaccinés. Un grand merci à Laura et à Mathieu d'être venus débattre avec nous dans Neumann le Chip. On vous attend, vous, au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi, 14h, Neumann le Chip.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Neumann le Chip, le retour, on est ensemble jusqu'à 14h. Interdiction d'accès à certains lieux, interdiction d'exercer sa profession. 61% des Français sont favorables à des restrictions pour les non-vaccinés. Alors vous, qu'en pensez-vous? Laurent Neumann est pour, si on ne veut pas de la vaccination obligatoire, il n'y a pas d'autre choix. Alexandre Devecchio est contre, c'est une atteinte trop forte aux libertés. Lisa Marie, quelle est la première tendance?
On parle Covid, on parle vaccin, vous êtes partagé. Je vous laisse deviner cette première tendance à votre avis.
50-50,
égalité parfaite, vous avez raison.
C'est un sujet Covid, c'est toujours comme ça. Avant d'aller au 32-16, on est avec André Grimaldi, cofondateur du collectif Interhôpitaux et professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière. Bonjour André Grimaldi.
Bonjour.
Avant de rentrer dans la question des restrictions pour des non-vaccinés ou pas, je voudrais juste revenir sur la question de la décharge. Notre auditrice qui était juste auparavant avec nous, Laura, qui est infirmière en psychiatrie, qui ne veut pas se faire vacciner et ne vaccine pas ses patients, disait on signe une décharge quand on se fait vacciner. Est-ce que c'est exact?
Écoutez, moi j'ai été dans un centre de vaccination de la Pitié-Salpêtrière. Les patients ne signaient absolument pas de décharge. C'est moi qui leur remettais leur certificat de vaccination et qui éventuellement leur prescrivait de Doliprane s'ils en avaient besoin. Mais non, pas du tout. C'est un acte médical et on ne demande jamais à quelqu'un de signer une décharge qui chargerait la responsabilité de la personne qui fait la vaccination ou éventuellement du laboratoire ou de l'établissement de santé.
Laura, elle disait, si vous me forcez à me vacciner, je démissionne, j'arrête, je laisse tout tomber, alors qu'elle avait l'air plutôt passionnée par son métier et investie. Vous pensez que des gens comme Laura, il y en a beaucoup dans le secteur hospitalier, dans les EHPAD?
Je pense qu'il y en a très peu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent pour beaucoup de raisons. Il faut s'interroger sur ces raisons. Hein. La prévention en France est... On est très en retard par rapport à d'autres pays, dans la population générale, mais aussi chez les soignants. Par exemple, la grippe, les soignants sont très peu vaccinés, enfin très insuffisamment vaccinés contre la grippe. Et chaque année, il y a entre 5000 et 10 000 décès dus à la grippe, notamment dans les EHPAD. Donc, ce n'est pas une histoire nouvelle. Hein. Par contre, beaucoup disent, bah, si c'est obligatoire, je le ferai. C'est la grande majorité. Pour une raison simple, c'est que le premier principe de tout soignant, qu'il soit en ville, à l'hôpital, privé, public, le premier principe, c'est ne pas nuire. Ne pas transmettre une maladie nosocomiale, ne pas être responsable de maladie. Quand vous êtes à l'hôpital, vous dites « je vais être sûr de ne pas attraper une maladie en plus ». Alors, on a des vaccins efficaces pour le Covid-19, on a aussi pour pneumocoque. Bon, il faut maintenant changer cette culture. Cette pandémie nous apprend ça. Au fond, c'est quoi le vaccin? C'est une mesure barrière, c'est la plus efficace des mesures barrières. Elle n'est pas à 100%, mais quand on respecte les mesures barrières, et ben on dit en plus, on prend le vaccin. Alors maintenant, on a un vaccin qui est très sûr, qui n'a pas d'effet secondaire. Bon, tout d'un coup, alors que plein de pays aimeraient tellement avoir le vaccin, on a un comportement de pays riches en disant « non, je ne me vaccine pas ». Donc je crois qu'il faut discuter. Si un soignant ne veut pas se vacciner, on parle avec lui. Pourquoi? Quelles sont ses raisons? Et si c'est systématique, s'ils pensent que les vaccins, c'est un poison, bah, ils s'est trompé un peu de métier.
André Grimaldi, vous avez défendu la vaccination obligatoire pour les soignants. Est-ce qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire étendre cette obligation à toutes les professions, par exemple, qui sont en contact avec le public, et même l'étendre jusqu'à l'ensemble de la population générale?
Alors, il y a une première chose, il y a l'étendre aux personnes qui sont en contact et qui s'occupent de personnes fragiles, c'est-à-dire les soignants à domicile, les secrétaires dans une EHPAD. Ça, c'est une chose. Autre chose, et faut-il l'étendre dans la population générale? Il y a une spécificité des soignants, celle que j'ai dit. Hein. D'abord, ne pas nuire. Moi, quand je vais dans un supermarché, un grand magasin, je ne confie pas ma santé au vendeur ou à la caissière. Donc, il y a une spécificité. Ensuite, pour éviter la quatrième vague, il faut étendre la vaccination. Alors, si vous me demandez, en tant que médecin, qu'est-ce que je pense, oui, il faut étendre. Mais après, la politique, c'est une autre décision. C'est une décision, est-ce qu'elle va être appliquée? Là, on est dans autre chose qu'une exigence professionnelle comme pour les soignants. Et je pense qu'il faut avancer. C'est-à-dire, le pass sanitaire, c'est aussi un moyen. Alors, c'est pas le pass sanitaire partout, évidemment, mais pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, pour aller dans des concerts où il y a beaucoup de monde, bah, on peut...
Pour aller au restaurant ou chez le coiffeur?
Non, ça, je pense pas. Je pense que la vie quotidienne doit être possible facilement. Mais par contre, là où il y a des vrais risques, c'est-à-dire des lieux fermés où il y a beaucoup de monde, ou alors on reveut des jauges, on reveut tout confiner. Alors, ça serait absurde. Je crois que là, utiliser le pass sanitaire, c'est une bonne chose. Le pass sanitaire, il dit soit vous êtes vacciné, soit vous avez eu la maladie, soit vous êtes négatif. Puis après, il y a des gens qui sont rétifs. Alors, il se pose la question, est-ce que la solidarité nationale doit financer les tests itératifs des personnes qui veulent absolument pas se vacciner ou pas? Ça, c'est un choix politique de société. Est-ce qu'on rembourse ou on rembourse pas? C'est un choix personnel. Est-ce que la solidarité sociale est faite pour rembourser les choix personnels? Certains, oui, ça a décidé politiquement. Donc, en tant que médecin, ma réponse, elle est oui, il faut vacciner pour éviter la quatrième vague, le pire du pire qui peut nous arriver. Après, en tant que politique, je ne sais pas ma décision à prendre. Il faut évidemment qu'il y ait un consensus national pour décider. Je pense que pour les soignants et les gens qui travaillent dans les établissements de soins, il y a un consensus et une règle professionnelle. Donc, il faut le faire. Ce n'est pas un métier comme un autre. Hein. On a dit hôpital-entreprise. Non, l'hôpital, ce n'est pas une entreprise comme une autre.
Et c'est vrai que quand on va
à l'hôpital, la première vague, on applaudissait les soignants.
C'est vrai que quand on va à l'hôpital ou quand on confie ses proches fragiles à un établissement comme un EHPAD, on a aussi besoin d'être en confiance. Et donc, la confiance, elle commence par là.
Mais évidemment, vous savez, nous, à Sciences Publiques, on nous distribue des badges pour mettre un badge sur lequel je suis vacciné.
Oui.
Alors, est-ce que les non-vaccinés ou les quelques minoritaires qui vont refuser vont dire aux patients, vous savez, je ne suis pas vacciné, vous le prévenir? Ben, il y a un côté absurde. Hein. C'est comme un soignant qui ne s'avrait pas des mains avant de faire des soins. Moi, j'ai connu une fois un soignant qui refusait de mettre des gants pour faire des soins des plaies à des pieds diabétiques. La surveillante lui a dit, monsieur, vous ne restez pas dans le service. Hein. On ne peut pas être soignant et transmettre des infections à des patients. C'est une lutte quotidienne. Hein.
André Grimaldi, restez avec nous. J'aimerais que vous discutiez avec Bertrand, qui nous appelle depuis Samonia dans l'Ain, qui est maraîcher. Bonjour Bertrand.
Oui, salut à tous.
Salut à toi Bertrand. Toi, tu n'es pas vacciné Bertrand, tu ne comptes pas le faire?
Ah non, absolument pas, non.
Alors pour quelle raison?
Pour moi, il y a un faux débat, parce que, à mon sens, la raison de départ qui est toujours invoquée, il n'y a pas de recul. Si ça, pour moi, elle n'a pas spécialement d'importance. Le recul, c'est sûr, on le verra à long terme, mais ça n'a pas d'importance. C'est plus que je vois pas, en fait, je comprends pas l'utilité, si ce n'est que sur une forme de traitement préventif comme la grippe. Donc pour tous les gens qui ont des comorbidités, qui peuvent être fragiles et autres, ça je comprends. Après, là où je comprends pas, c'est qu'on va aller, en gros, former une forme d'agression sur les personnes qui sont non vaccinées en disant ah vous allez être la cause de la suite. Moi je comprends pas pourquoi, parce que il y a un moment donné, je veux dire, le vaccin, là on a les dernières données israéliennes, a priori il a une capacité jusqu'à 64% de réduction de la transmission. 64%! Mais ça, je veux dire, ça en reste quand même une bonne partie derrière. Donc, on peut quand même transmettre, même si on est vacciné. Donc, même s'il y a 100% de la population qui est vaccinée, comme disait le professeur Pittet, le Martin Blachier aussi, qui l'a dit récemment, ça empêchera pas la transmission du virus. Donc, qu'on laisse les gens qui ont, comme moi, pas envie de se faire vacciner, prendre le risque pour nous de faire une forme grave, parce que la vérité, elle est là, elle est sur la tension hospitalière, et ça, je l'entends tout à fait. on a un problème avec ça, il y a pas de souci. Donc pour réduire cette tension hospitalière, il y a ce risque flagrant de dire il y a des gens qui vont mourir parce que on n'a pas de quoi en gros les accueillir en hôpitaux. Dans ce cas-là, on vaccine, mais je veux dire, on vaccine que pour les gens qui ont ce risque-là, ceux qui veulent prendre
donc
le risque.
Donc toi, tu veux dire, Bertrand, que toi, tu te dis, moi, je prends le risque de faire une forme grave.
Mais, voilà, en gros.
Toi, ça, tu prends ton risque.
Tout à fait, c'est mon risque, et c'est là où j'interviens.
Bertrand, donc,
c'est pas ça qui va aider
Bertrand,
pour la suite.
Bertrand, si je te dis que le vaccin coûte une dizaine ou une vingtaine d'euros, et que demain, si tu fais une forme grave de la maladie, et que tu passes 3 semaines en réa, tu vas coûter 50 000 euros.
Ah oui, bien sûr, tout à fait, j'entends.
Voilà.
André Grimaldi, peut-être.
Mais par contre, on peut prendre le quota inverse, se dire en termes monétaires. C'est combien de personnes on a vaccinées pour combien de personnes qui n'auraient pas cette forme grave?
Ça
va être des millions d'euros.
Si on avait eu le vaccin il y a un an, on aurait évité 110 000 morts, des services totalement embolisés et sans doute des milliards d'euros à la sécurité sociale.
André Grimaldi, cofondateur du collectif Interhôpitaux et professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière. Vous entendez, Bertrand, c'est pas du tout l'impact à long terme. Lui, c'est la question vraiment, est-ce qu'il a intérêt? Il voit pas bien pourquoi il serait vacciné.
Oui, mais enfin, c'est un débat de pays riche, franchement.
Vous savez, mais ça n'empêche pas de l'avoir.
Oui, des collègues me montrent les vidéos en Tunisie et ailleurs où ils n'ont pas de vaccin. Nous, on est en train de débattre, on fait un fil bouche. Alors, il se trouve que ce virus, il mute. Et donc, il y a des formes graves, y compris chez les jeunes. Dans la première vague, il y a une jeune de 14 ans qui est morte à l'hôpital Necker. Donc, l'idée, je prends des risques, je prends mon risque, c'est pas très, très, en santé publique, c'est pas tout à fait acceptable. Et puis, alors, le vaccin, il protège pas à 100%. C'est l'ensemble des mesures qu'il faut prendre. Il y a en France, il n'y a pas que les personnes âgées. Il y a des personnes en surpoids et obèses. Il y a 4 millions de diabétiques. Alors, on dit, ils seront protégés par le vaccin. Oui, mais il y a aussi les immunodéprimés. Il y a 200 000 immunodéprimés. Alors, ils peuvent mourir, c'est pas de problème, puisque c'est pas vrai. Hein. Chaque geste est un geste pour soi, mais un geste pour les autres. Un réflexe citoyen. Alors évidemment, notre société a beaucoup évolué vers un individualisme. Moi, je vis à Paris et donc je vois les vélos sur les trottoirs qui ne respectent aucun feu rouge, etc. Si c'est ça la santé publique, on ne fera pas société.
Bertrand, l'argument de la...
Donc, je pense qu'il y a un minimum, ce qu'on appelle tout simplement...
Le civisme.
Un civisme.
Bertrand, quand tu entends l'argument...
On attend que le virus mute et deviennent dangereux pour les jeunes. Alors à ce moment-là, on dira oui, je me vaccine. Enfin, je crois que la société a suffisamment payé. On a la chance inouïe.
Je voudrais juste qu'on écoute Bertrand réagir. Bertrand, quand tu entends la question du civisme.
Le virus mute et on fera la vaccination pour les plus jeunes. Enfin, c'est pareil. Là, il y a le lambda qui apparaît. Alors, je n'ai pas de chiffres ni rien pour l'instant parce qu'il apparaît comme plus résistant au vaccin. C'est-à-dire qu'on va remodifier. Ça va faire un vaccin comme la grippe avec des multiples souches tous les ans. On fera. Et puis, il y a une partie de la population qui le fait et d'autres pas. Et puis ça finira comme ça, mais de toute manière, je veux dire, c'est comme le professeur Pittès qui disait, le virus, il va continuer à se transmettre, on va vivre avec, et ça va faire partie des familles de coronavirus. Et moi, je le rejoins totalement là-dedans. C'est-à-dire que c'est une unité collective, elle sera aussi quand tout le monde sera, entre guillemets, infecté, alors infecté même vacciné. Mais je veux dire, c'est la finalité de la vie.
Mais l'idée de protéger les autres, Bertrand, c'est pas un argument qui fait mouche chez toi.
Parce que pour moi, ça protège pas les autres de pas être vacciné, d'être vacciné. Je veux dire, c'est pas une protection pour les autres. Je veux dire, quand on est encore à 36% capable de transmettre le virus, c'est-à-dire une personne sur trois, donc si moi j'en contamine 6 par exemple, la personne qui est vaccinée va en contaminer 2, mais elle en contamine quand même 2.
Oui, mais du coup, la statistique, ça n'a pas d'impact. Tu te dis pas, c'est déjà mieux que rien. Toi, c'est zéro ou rien.
Sur le long terme, dans tous les cas, il y aura, entre guillemets, 100% qui sera contaminé à un moment donné ou à un autre. Donc, c'est que le facteur d'atténuation des formes, mais c'est-à-dire, ça va pas changer l'issue. Et au contraire, pour moi, on retarde l'issue parce que moins on laisse contaminer, moins les corps humains apprennent à se défendre. Et plus on va avoir de problèmes.
Tu veux faire fonctionner ton propre corps, argument qui est effectivement très utilisé pour ne pas se faire vacciner. Merci beaucoup Bertrand d'avoir été avec nous. Un grand merci à André Grimaldi, cofondateur du collectif Interhôpitaux et professeur émérite à la Pitié Salpêtrière.
La santé publique, c'est pas tout à fait comme le foot. On dit toujours qu'il y a 67 millions de sélectionneurs pour l'équipe de France. On peut tous avoir un avis sur qui doit jouer, qui doit pas jouer. Par contre, sur la santé publique, moi, quand j'écoute le professeur Grimaldi, il a fait 15 ans d'études, il a 30 ans d'expérience. J'ai plutôt tendance à lui faire confiance à lui. Voilà. Mais peut-être que j'ai tort. Je sais pas.
On vous attend au 32-16 pour discuter avec nous des restrictions potentielles pour des non-vaccinés. Est-ce que vous êtes pour ? Est-ce que vous êtes contre ? On vous attend. À tout de suite.
RMC, midi, 14h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Neumann Le Chypre, le retour, on est ensemble jusqu'à 14h. Interdiction d'accès à certains lieux, interdiction d'exercer sa profession. 61% des Français désormais sont favorables à des restrictions pour les non-vaccinés. Alors vous, qu'en pensez-vous ? Pour Laurent Neumann, il est pour. Si on ne veut pas de la vaccination obligatoire, il n'y a pas d'autre choix. Pour Alexandre Devecchio, il est contre. C'est une atteinte trop forte aux libertés. Et on va retourner au 32-16.
Ah. RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Le 32-16, il y a eu un petit retard à l'allumage.
On y est, il est là, le 32-16. On était avec Vincent qui nous appelle depuis Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Toi, tu as eu ta première dose. Est-ce que tu penses qu'il faut mettre en place des restrictions pour ceux qui refusent de se faire vacciner ?
Non, je ne pense pas que les restrictions ce soient utiles ou nécessaires.
Oui.
Je pense que ce sera une galère à mettre en place. Les restrictions, notamment, je pense aux restaurateurs, aux salles de concert, enfin à tout ça, que ça risque de coûter un fric fou encore en test, voilà. Et puis que pour justement ces restaurateurs, ces salles de concert, enfin voilà, eux ils ont déjà pris très cher. Les priver d'une partie de leur clientèle, c'est encore leur faire peser sur eux les choix de certains. Moi, je pense qu'il faut être un peu plus malin que ça et qu'on peut trouver d'autres solutions. D'incitation et voire même de compensation. Je pense notamment aux limitations de remboursement, notamment des tests.
Pour les tests, ouais.
Peut-être pour autre chose. Parce qu'à partir du moment où tu fais le choix de ne pas te vacciner, les tests de confort, ceux que j'appellerais de confort pour pouvoir aller justement là où serait mis en place un pass sanitaire. Qui reste très discutable pour moi, mais bon, ceux-là, pour moi, ils ne devraient pas être remboursés, clairement. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, se faire vacciner, c'est un geste de solidarité envers ceux qui sont plus à risque. Pour beaucoup de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est des gens qui ne sont pas à risque ou pas à risque de formes graves. Et ceux-là, ils pensent pour moi, pas assez à la solidarité envers ceux qui auraient des risques de formes graves. Et donc, je disais au standard que pour moi, il y a autre chose dans notre société qui fonctionne sur ce principe de solidarité, c'est la sécurité sociale. Et que pour moi, je serais pour leur faire participer plus par mesure de compensation.
Ah ouais, tu veux dire, si tu attrapes la maladie, que tu vas à l'hôpital ou que tu dois être soigné, t'es pas ou peu remboursé si tu n'étais pas vacciné ?
Première chose, ouais.
Alors, Vincent, c'est vachement intéressant parce que j'ai eu cette discussion-là avec un copain hier soir. On a eu exactement la même discussion. Et il m'a fait une autre suggestion qui a trotté dans ma tête depuis hier. Il dit, si le gouvernement veut accélérer la vaccination maintenant, il peut dire un truc très simple. À partir du 1er septembre, le vaccin, c'est 150 euros. Et là, tu vas voir, il m'a dit, tout le monde va se précipiter pour aller
dépêchez-vous, parce qu'à un moment, ça va devenir
tout le monde va aller se précipiter pour se faire vacciner maintenant, si on leur dit, c'est 150 euros à la rentrée.
Ouais, c'est
Alexandre,
une idée. Après,
cette proposition.
Bah, je dis pourquoi pas, mais c'est un peu prendre les gens qui ne veulent pas se faire vacciner pour des gens négligents. Alors je crois que le problème c'est pas l'argent, c'est les gens qui ont des doutes pour leur santé, qui pensent qu'ils vont avoir des effets secondaires dans 5-10 ans. Je suis pas sûr que vous allez les convaincre.
On pour 150 euros, j'avais pas le temps.
Je peux te dire
si ça peut accélérer le rythme.
Alexandre, je peux te dire que parmi ceux qui vont partir à l'étranger là pour leurs vacances et qui ont appris que pour aller faire un test PCR au moment de rentrer en France,
ça peut coûter 150 euros.
Ça peut coûter entre 120 et 160 euros en Espagne ou au Portugal. Quand tu descends au Portugal avec 3 enfants, vous êtes 5 fois 160 euros. Dis donc, c'est un sacré budget. Donc si tu dis aux gens, attendez, vous vaccinez Tu vois, peut-être que la question financière.
On rappelle d'ailleurs que la France était à peu près le seul pays à ne pas faire payer, y compris les étrangers qui venaient sur leur sol pour le test PCR.
Enfin, que le vaccin devienne payant, sincèrement, j'y crois assez peu. Ça va aussi. Même à l'inverse de
tout. Non, mais on a le droit d'avoir des idées.
Absolument. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. On est avec Mathieu qui nous appelle de Villeneuve-d'Ornon. C'est en Gironde. Mathieu, toi, tu étais méfiant sur le vaccin et tu as finalement été te faire vacciner.
Oui, bonjour.
Salut,
oui,
Mathieu.
Exactement. Moi. J'étais très méfiant, j'étais comme tout le monde, j'avais ma part de qu'est-ce qui va nous arriver, pourquoi se faire vacciner. Et puis en fait, c'est tout simple, en fait, c'est pas pourquoi, maintenant on est obligé. Il faut absolument convaincre cette maladie, convaincre ce virus. Et il faut arrêter aussi que ce virus se développe, et pour qu'il arrête de se développer, ben, il faut qu'on en arrive à contre-attaquer nous et se faire vacciner en masse, quoi.
Alors attends, ça m'intéresse, Mathieu. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Quel est l'argument qui a fini par te convaincre alors que tu étais réticent?
Tout simplement penser aux autres. Parce qu'en fait, on pense à nous, on dit oui, qu'est-ce qui peut nous arriver? Donc c'est une formule d'égoïsme. Parce qu'en fait, si nous, on dit, bon, ben, j'ai assez d'anticorps, moi je suis assez solide, je peux m'en passer, il n'y a pas de problème, vous êtes très bien. Mais qu'est-ce qui nous prouve que la centaine de personnes qu'on a croisées dans la journée est aussi solide que nous? Rien du tout. Tandis que si on le contracte de forme beaucoup moins grave, que tout le monde se fait vacciner, alors peut-être qu'on pourra leur transmettre, mais en beaucoup moins grave, ils s'en remettront et il y aura. Enfin, voilà quoi, je veux dire, pour moi, c'est.
Ça devient un devoir, en fait, pour toi.
Mais en fait, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, maintenant, c'est un peu comme le vote. C'était un droit, maintenant, c'est un devoir. C'est un devoir. Pour protéger tout le monde, c'est un devoir.
Bon, Mathieu, t'es plus efficace que nous, je pense, pour convaincre les non-vaccinés. On va t'envoyer en campagne avec Olivier Véran, peut-être.
Clairement, moi, c'est mon point de vue. Après, moi, ce qui m'a fait aussi passer le pas, c'est le fait de passer par un sans rendez-vous. Je sais que je suis en déplacement aussi, donc je vais dans toute la France. Là, je suis en Corrèze. C'est pareil. Je croise du monde partout en France. Je suis obligé d'être vacciné. Sinon, comment je fais? Je peux choper ça n'importe où. Je ramène chez moi. C'est compliqué quand même.
Donc toi, t'es allé te faire vacciner, t'as été pris tout de suite et après...
Voilà, on est pris de suite, on remplit un petit dossier. Allez, il y en a pour 10 minutes avant vaccination. On se fait vacciner, on reste dans la pièce sous surveillance 15 minutes. Bah, ouais, ça nous prend 30 minutes rapide, de notre temps, franchement, pour sauver... peut-être que je vais sauver 10, 15 vies, on ne sait pas. Les personnes que je vais croiser, on ne peut pas savoir. Peut-être que je vais en sauver zéro. Mais au moins, j'ai fait le geste, j'ai fait mon devoir.
Bah merci Mathieu d'être venu nous raconter ton expérience à toi. On est avec Benjamin qui nous appelle de Cognac. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Toi, tu as eu tes deux doses. Tu penses qu'il faut restreindre les activités de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, je pense que créer ce qu'on pourrait appeler une petite sorte de jalousie, ça pourrait peut-être faire avancer les choses plutôt que de trouver des sanctions financières comme de payer le vaccin à 150 euros ou les tests. C'est... Pour moi, c'est encore plus dur, je pense, que de priver les non-vaccinés de l'accès au resto ou au concert.
Alors, tu penses à quelles activités? Tu vois, par exemple, il faut un test ou un vaccin, par exemple, pour aller au restaurant, pour aller dans sa salle de sport, pour aller au théâtre, au cinéma.
Ouais, les activités de loisirs qui peuvent être accessibles normalement à tout le monde, les limiter à ceux qui sont sûrs pour les autres spectateurs, pour les autres sportifs, pour les autres...
Tu n'irais pas jusqu'à interdire l'entrée des magasins, quand même?
Bah non, parce que je suis commerçant, donc... le problème, la différence, c'est que dans les commerces, on a toujours le masque. Depuis maintenant, le mois de juin l'année dernière, les masques sont disponibles, obligatoires. Donc moi, j'ai commencé, je faisais une petite épicerie il y a un an et demi, sans masque, en pleine campagne. On était certainement plus en danger que maintenant. Maintenant, je pense que si on met pas une incitation, alors pas financière parce que ça fait un peu cher, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Mais une incitation, une privation de loisirs, je pense que ça peut plus acter les choses.
Ok, et on finira avec toi, Benjamin, qui fait partie des 61% de Français qui sont favorables avec des restrictions pour les non-vaccinés. Quel est le résultat des votes, Lisa Marie?
Eh bien, notre baromètre est aligné avec le sondage BFM TV. Vous êtes finalement 59% favorables à la mise en place de restrictions pour les non-vaccinés.
Ah, le ministre de la Santé vient de tweeter, il a dit que le vaccin est...
Et sur Twitter, toi, maintenant?
Ben oui, regarde, tu vois.
Incroyable.
Mais je fais des progrès.
Oui.
Le vaccin est à 95% efficace contre les formes graves, mais à 100% efficace.
On le contre le confinement.
Voilà.
Moi aussi, j'ai Twitter. Allez, on va parler de la semaine de 4 jours.
RMC, Neumann Le Chypre.
C'est bon à savoir.
Voilà un bon combat. La semaine de 4 jours a fait ses preuves, Lisa Marie, en Islande.
Oui, après 4 ans de tests, la plus grande expérience de réduction de temps de travail s'est avérée être un succès fracassant en Islande. Plus d'1% de la population islandaise a expérimenté entre 2015 et 2019 le passage à la semaine de 4 jours de travail, le tout sans réduction de salaire. L'expérience incluait des employés habitués au rythme 9h-18h, ainsi que d'autres travaillant sur des horaires décalés. Elle se déroulait dans 100 lieux de travail différents, comme des bureaux, des écoles, des hôpitaux et des services sociaux. Une précision importante, les employés sont passés de 40 heures sur 5 jours à 35 heures sur 4 jours. Résultat, travailler moins pour produire pareil, eh bien, ça marche. Les 2500 participants ont observé une amélioration de leur bien-être, de leur productivité et une meilleure gestion de l'équilibre vie pro-vie perso. Cette semaine de 4 jours de travail séduit de plus en plus de pays comme le Royaume-Uni, où 45 députés ont signé une motion pour demander au gouvernement d'étudier la proposition. En Espagne, le gouvernement a décidé de tenter l'expérience et les essais vont débuter cet automne sur une période de 3 ans. Alors vous me voyez venir, je vais vous poser la question, à quand la semaine de 4 jours en France ?
Bah vas-y Laure, c'est ton combat
mais
personnel.
Attends, mais moi je suis Laure, toi t'adores. Pour, mais bien sûr, 4 jours travailler beaucoup, 4 jours comme ça, paf.
Condensé, 4 jours condensé.
3 jours de repos, t'es frais comme un gardon le vendredi soir, t'as fait toutes tes courses le vendredi.
Excuse-moi, juste une chose.
Excellente proposition.
Les Islandais, ils ont découvert le fil à couper le beurre là, parce qu'il y a eu la même étude menée en 2019 par Microsoft. Auprès de 2300 salariés. Et eux, ils sont arrivés exactement aux mêmes conclusions. Et même, ils sont allés plus loin. Ils ont découvert que, du coup, ça faisait baisser la consommation de papier dans les bureaux de 60%, que ça faisait baisser la consommation d'électricité de 23%, que surtout, le bien-être au travail était absolument décuplé. Les Irlandais sont en train de mener l'expérience là en ce moment. Et j'ai appris, figure-toi, que les Japonais venait de le recommander aux entreprises privées.
Oui, tout à fait.
Et qui vont l'expérimenter peut-être dans leur propre service public.
Moi, j'aime mon travail et je suis pour travailler 7 jours sur 7.
7 jours sur 7, pas de repos pour aller
travailler. Non, plus sérieusement.
Ça, c'est parce que tu travailles pas à la mine.
Plus non, sérieusement, c'est pas étonnant que Microsoft, finalement, soit favorable à ça. Parce que l'évolution qui a l'air positive comme ça, c'est aussi le remplacement par des robots, etc. Donc, je suis pas sûr qu'on aille forcément vers une société de loisirs en allant vers la société de 4 jours par semaine. On va aussi vers une société de précarité qui peut être inquiétante.
Mais là, l'Islande, c'était pas uniquement sur des employés de bureau, c'est pour ça en fait. Eux, ils l'ont fait vraiment dans les hôpitaux, dans les écoles, vraiment pour tout le monde, et c'est une grande première et c'était 4 ans de test.
Ouais,
et je vais commencer par me l'appliquer à moi-même, parce que la semaine prochaine, je ferai des semaines de 4 jours, donc je serai bien. Je pourrais vous dire, si c'est bien.
Je vais même pas demander mon avis.
Ça sera pas avec toi, mon Lolo. Tout ça, on va se séparer, on va divorcer, mon
petit. Non, on se séparera jamais, toi.
Dans un instant, merci Lisa Marie. On peut retrouver C'est bon à savoir sur tous nos réseaux sociaux et sur rmc.fr. C'est la fin de Neumann Le Chypre pour aujourd'hui. On se retrouve demain midi 14h. C'est l'heure de parler Tour de France avec Christophe Cessieux. Christophe, il y a de la casse. Ça a l'air dangereux, ce Tour de France. Christophe, est-ce que tu es là pour la 12e étape du Tour de France aujourd'hui? Et ça sera dans la Drôme et il vous racontera dans un instant Intégral Tour. Toute cette casse, ça a l'air pas facile. À tout de suite.
RMC, midi, 14h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver. Je vous attends pour débattre jusqu'à 14h. C'est Laurent Neumann.
Bonjour à tous, c'est Alexandre Devecchio. Très heureux de vous retrouver également.
Bonjour à tous, c'est Laure Clausier. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC. Le gouvernement recommande d'éviter le Portugal et l'Espagne. Le variant Delta va-t-il gâcher vos vacances? C'est notre question jusqu'à 13h.
Oui, alors je ne sais pas si ça va gâcher les vacances des Français, mais les Français, eux, ils sont à 61% favorables à des restrictions pour les non-vaccinés. vaccinés. Alors, interdiction d'accès à certains lieux, interdiction d'exercer certaines professions. Vous en pensez quoi? On vous attend au 32-16. Est-ce que vous êtes sévère avec les non-vaccinés?
À 12h50, on va jouer au C'est quoi ça, notre jeu sur l'actualité. Cette semaine, vous gagnez votre séjour pour deux personnes dans les hôtels Baladin, Escapade en ville ou à la campagne. Vous choisirez. Pour gagner votre séjour, vous envoyez JEU par SMS au 732-16. Mais avant, on va parler des vacances, de la plage, du Farniente, des fêtes peut-être aussi. En France, les boîtes de nuit doivent rouvrir demain, un été qui s'annonçait radieux sur le plan sanitaire, mais ces derniers jours, le gouvernement enchaîne les alertes. Le nombre de cas de contamination au coronavirus réaugmente de façon inquiétante. 11 régions voient leur taux d'incidence grimper avec des dynamiques épidémiques particulièrement fortes en PACA et en Île-de-France, mais aussi en Bretagne. La part du variant Delta représente désormais plus de 40% des contaminations dans le pays. Et dans nos pays voisins, la situation n'est pas meilleure. Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, était ce matin sur France 2. Il invite les Français à une très grande prudence. S'ils vont en Espagne ou au Portugal, on l'écoute.
Nous suivons particulièrement la situation de pays où effectivement la flambée est très rapide. Le Portugal, l'Espagne, la Catalogne en particulier, où de nombreux Français se rendent pour faire la fête, pour des vacances. Attention et très grande prudence. On va les décider dans les prochains jours, mais nous pourrons avoir des mesures renforcées. Ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, évitez l'Espagne, le Portugal dans vos destinations.
Alors notre question, le variant Delta va-t-il gâcher vos vacances? Alexandre, tu dis non.
Non, moi je reviens d'Espagne pour rien vous cacher. C'était très agréable, il faisait très beau et il n'y a pas de quoi avoir peur. Voilà.
Et donc tu t'es testé à l'aller et au retour.
Et au retour, exactement. Et tout va bien. Je crois que effectivement le nombre de contaminations repart à la hausse, mais heureusement il y a moins d'hospitalisations, moins de cas graves, donc il faut raison garder. En plus j'ai des origines portugaises, donc. Moi, je vais très souvent aussi au Portugal. L'accueil est extrêmement chaleureux, donc je ne vois pas pourquoi on ferait ça au Portugal. Bon, on peut bien sûr prendre ses vacances en France, mais le Portugal est une très belle destination et je crois que on peut s'y rendre en essayant de se protéger, bien sûr, en se faisant vacciner avant si possible.
Laurent, toi, tu étais très, très optimiste, tu étais prêt pour toutes les fêtes. Là, ça commence un peu à changer.
Ah non, mais j'avoue que ce que j'entends de la part des médecins, de la part du gouvernement depuis quelques jours, c'est en train de doucher mon insouciance. Oui, j'étais insouciant pour les vacances. Je faisais partie de ceux qui disaient, non pas que l'épidémie soit déjà derrière nous, il y a encore du virus, des variants, etc. Mais je pensais que l'été allait se passer tranquillement. Or, il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe si on va à l'étranger. On peut aller en Espagne, au Portugal, en Italie, etc. Mais il va falloir faire quand même extrêmement attention. Est-ce que je pourrais faire la fête avec des non-vaccinés? Oui, mais je vais faire super attention. Donc, ce n'est pas l'insouciance qu'on imaginait. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles contraintes dès cet été pour éviter justement une reprise grave de l'épidémie au mois de septembre? Je suis bien incapable de répondre. Ça va peut-être arriver plus tôt que prévu. On attend une prise de parole du président de la République ou du Premier ministre lundi. Et puis, honnêtement, peur pour les vacanciers, c'est une chose. Mais moi, je me mets à la place de ceux qui vont accueillir les vacanciers. Je pense aux hôteliers, aux restaurateurs, aux propriétaires de camping, etc. Est-ce qu'ils vont pouvoir les accueillir de façon légère et insouciante? C'est pas sûr. Et puis, je me dis que si on commence, nous, à contrôler les frontières, y a de fortes chances pour que ce soit réciproque. Il n'y a pas de raison. Si nous on contrôle la frontière de la France vers l'Espagne, les Espagnols vont faire la même chose avec nous, nous Français, et ce sera pareil avec les autres pays européens.
L'instant, il n'en est pas question. Il s'agit d'un conseil simplement, mais moi je me mets à la place effectivement des hôteliers, des restaurateurs qui ont déjà beaucoup souffert, peut-être encore plus dans ces pays-là où le quoi qu'il en coûte a été moins important, et ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'accueillir des touristes, et nous d'eux-mêmes. On est un grand pays, on a liquidé notre industrie, mais il nous reste le tourisme, l'art de vivre, nos restaurants, nos paysages. Donc je pense que ce serait un tort de fermer les frontières avec nos voisins européens, d'autant plus que Emmanuel Macron en a fait une doxa. Même au moment où ça paraissait utile, il était contre la fermeture des frontières, y compris européennes.
Il avait demandé aux Français de prendre leurs vacances en France.
Au tout début de la crise, je parle. Il y a eu eu beaucoup de mal avec avec les frontières. Et ensuite, il a considéré qu'on était dans l'Union européenne et que s'il fallait fermer des frontières, c'était les frontières de l'Union européenne et pas de chaque pays.
T'as raison de rappeler ça. C'est très juste. Mais
on
l'a beaucoup critiqué.
Oui, le
premier. La droite, l'extrême droite. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le journal auquel tu collabores a beaucoup reproché Le Figaro, pour ne pas le nommer, a beaucoup reproché à Emmanuel Macron justement de ne pas avoir voulu entendre ceux qui disaient faut peut-être fermer les frontières si on passe le virus.
Je suis d'accord et je pense qu'il était critiquable à l'époque, mais là le virus est là, il circule en Europe, donc et la gravité est moins grande. Il aurait fallu fermer les frontières au moment où le virus circulait peu, notamment avec la Chine. Là, il faut être très vigilant par rapport à des pays comme le Brésil et l'Inde qui effectivement font des formes dangereuses et nouvelles, mais je crois qu'en Europe, on peut laisser les frontières ouvertes.
On va aller en Espagne dans un instant voir Elliot à Barcelone, mais avant Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux sociaux, bonjour.
Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le variant Delta va-t-il gâcher vos vacances? On attend vos témoignages au 32-16 et vous pouvez voter et nous écrire sur l'application RMC, sur Twitter et sur Facebook.
RMC, Neumann Le Chypre,
32-16. Et on est avec Elliot qui travaille dans l'export à Barcelone. Bonjour Elliot.
Bonjour.
Quelle est l'ambiance autour de toi à Barcelone? Il y a une ambiance de fête, il y a une ambiance de fin de soirée parce qu'on repart dans une nouvelle période, c'est comment?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on pensait que ça allait partir plutôt dans la fête. Les boîtes de nuit, elles avaient ouvert il y a une ou deux semaines et puis là, elles sont refermées à nouveau. Donc, fin de soirée, quoi.
Toi, tu penses que ça va pas réouvrir c'est foutu pour l'été?
Ah oui, pour les boîtes de nuit, c'est sûr.
Ça a été dès l'ouverture des boîtes de nuit, la ruée, la fête géante?
Ah ouais, c'est ça. Ça a été depuis la nuit de la Saint-Juan, plus précisément, ici en Espagne, à Barcelone. C'est une nuit qu'on fête, c'est comme le 14 juillet en France. Il y a eu énormément de cas à partir de cette nuit-là, quoi.
D'accord, donc tout d'un coup, la fête. Quand tu entends Clément Beaune dire qu'il faut éviter l'Espagne et le Portugal, tu réagis comment?
Eh bien, je dis que pas forcément. C'est-à-dire qu'on a, pendant le Covid, on a reçu énormément de Français, notamment les derniers mois, quand c'était surtout le couvre-feu en France. Et puis, ça n'a rien passé, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'en ce moment, il y a plus de cas chez les jeunes qu'il faut fermer les frontières.
Mais le problème, Elliot, pardon d'inverser la charge de la preuve, mais le problème, Elliot, c'est l'ouverture des boîtes de nuit ou c'est le fait que la vaccination est aussi lente en Espagne que chez nous?
Les deux. Je dirais que c'était un peu, d'un côté, c'est un peu irresponsable d'ouvrir les boîtes de nuit, sachant que les jeunes, et pas que les jeunes, mais surtout les jeunes qui vont y aller, sachant que le vaccin pour nous, ça s'est passé plus lentement. Je pense qu'ils auraient dû attendre peut-être la fin de l'été, quoi.
Non, mais je te pose la question, Elliot, parce que j'ai regardé les chiffres en Catalogne ce matin. Oui. En l'occurrence, il y a d'ailleurs un point commun entre la Catalogne et la Grande-Bretagne. L'incidence pour 100 000 est de 600 chez les 15-25 ans en Grande-Bretagne et chez toi à Barcelone. C'est quand même colossal.
Ouais, c'est colossal. Mais c'est surtout, c'est étonnant, hein, mais c'est colossal. Ouais, on l'a vécu ça de près. Donc je peux te confirmer les chiffres parce que comme je t'ai dit, depuis la nuit de Saint-Juan, il y a eu des soirées qui se sont succédées et on a eu énormément de potes qui ont eu le Covid, quoi.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne se vaccinent pas et qu'en même temps ils font pas gaffe aux gestes barrières?
Si, ils font gaffe aux gestes barrières, mais des gestes barrières comme le masque dans un espace fermé, comme c'est une boîte de nuit, désolé, mais c'est pas tout à fait.
Après, est-ce qu'il y a une hausse des hospitalisations chez toi en Espagne? Parce qu'en France, ça continue de baisser. Hein.
Au niveau de l'hospitalisation, je dirais que c'est surtout, comme on a dit, chez les jeunes, qu'il y a peut-être un peu plus d'hospitalisation, même si, bien sûr,
c'est
un peu moins sévère, quoi.
Là, en France, ça continue de baisser. On est à moins de 1 000 personnes hospitalisées pour des formes graves. On est au niveau de septembre 2020.
Donc, c'est le bon et le mauvais côté des choses, tu vois. Alors, le bon côté des choses, c'est qu'effectivement, il y a une hausse des contaminations, mais ça ne se voit pas encore pour le moment à l'hôpital. Il faut croiser les doigts pour que ce soit le cas encore dans les mois qui viennent. Le mauvais côté des choses, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui sont réticents, hésitants à la vaccination, alors qu'on pourrait définitivement tourner la page si les gens se vaccinaient massivement. On se poserait plus toutes ces questions-là.
Ce qui est intéressant, c'est la politique qui est menée aujourd'hui par Boris Johnson au Royaume-Uni. Vous l'avez rappelé, même taux d'incidence qu'en Catalogne. Et finalement, il a décidé de faire tomber toutes les barrières sanitaires, y compris le masque dans les lieux publics. Alors c'est vrai que c'est le pays qui a le plus vacciné. On observe effectivement très peu de cas graves. Il fait un pari politique et moi je pense que c'est un pari qui peut s'avérer gagnant. Alors il a eu des paris perdants, mais il en a eu d'autres gagnants, notamment de déployer le vaccin très vite. Je crois que quand même il va falloir apprendre à vivre avec ce virus à un moment ou à un autre. On a beaucoup dit que c'était l'honneur de notre civilisation, effectivement, d'avoir protégé les plus faibles. Aujourd'hui c'est fait. Je crois qu'une civilisation qui continuerait à s'arrêter prendrait des grands risques en termes de cohésion sociale, de cohésion nationale et en termes d'avenir. Donc moi, je crois qu'il faut continuer à vivre. Et s'il si, faut accélérer la campagne...
On ne pourra pas remettre en place des mesures telles qu'elles avaient été.
Mais non, on ne va pas rester enfermé comme ça éternellement. Donc je crois qu'il faut aussi préparer l'opinion au fait qu'il n'y aura plus dorénavant de confinement.
Ce que tu dis est très facile, mais à une condition, c'est que les gens se vaccinent.
On est d'accord. Voilà, mais là encore, je trouve la stratégie de Boris Johnson intéressante. Il a fait appel non pas à la morale, non pas à la contrainte, il n'a pas essayé de donner des leçons, mais il a fait appel au patriotisme des Britanniques, et je pense que la France devrait en faire de même. Il faut créer un élan autour de cette vaccination.
Je veux dire que d'aller se vacciner, c'est un geste patriote.
Oui, si on veut sortir de cette crise le plus vite possible, je crois qu'il faut le faire maintenant.
Le patriotisme comme argument pour se faire vacciner. Un grand merci à Elliot d'être venu nous parler de l'Espagne et de la situation à Barcelone. On va continuer ensemble à discuter de la situation sanitaire. Est-ce que vous êtes inquiet pour vos vacances, puisqu'il faut apparemment éviter, selon Clément Beaune, l'Espagne et le Portugal? Dans un instant, on sera avec Philippe Amouyal, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille, qui nous accompagne régulièrement dans Neumann le Chypre. Et on vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi, 14h, Neumann le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Neumann le Chypre, le retour, on est ensemble jusqu'à 14h. Le gouvernement recommande d'éviter le Portugal et l'Espagne. Le variant Delta va-t-il gâcher vos vacances? Pour Alexandre Devecchio, non, les hospitalisations n'augmentent pas, ils n'écoutent pas les alarmistes. Pour Laurent Neumann, oui, lui, il les écoute, les alarmistes, le médecin, le gouvernement, et ça a calmé son insouciance. Lisa Marie, quelle est la première tendance des votes?
Mais vous ne semblez pas craindre le variant Delta, puisque vous êtes 80% pour le moment à répondre non, ce variant ne va pas gâcher vos vacances.
Tant mieux.
Et avant d'aller au 32-16, on est avec Philippe Amouyal, professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonjour Philippe Amouyal.
Bonjour.
Il y a un peu deux manières de regarder cette potentielle quatrième vague: les contaminations ou les taux d'hospitalisation. C'est vert à moitié vide ou vert à moitié plein?
Alors je crois qu'il faut bien considérer cette éventuelle quatrième vague de manière différente des précédentes. Lors des précédentes vagues, on était focalisé sur les taux d'hospitalisation, les taux d'entrée en réanimation, parce qu'on savait que c'est cela qui bloque le système sanitaire et qui entraîne la nécessité de mettre en place des mesures restrictives générales de la population. Là, c'est un peu différent. On s'en est déjà rendu compte lors de la troisième vague, où on a vu significativement diminuer les hospitalisations chez les personnes les plus âgées, les plus fragiles, et voir un peu, au moins dans les EHPAD, la mortalité diminuer. Là, on a avancé sur la vaccination, et donc normalement, avec l'expérience que l'on connaît du Royaume-Uni aujourd'hui, où en effet ils sont à plus de 25 000 cas, mais ils ne saturent pas leurs services hospitaliers ni leur réanimation, on devrait pouvoir s'attendre à tamponner une vague de contamination, mais pas forcément un débordement des services hospitaliers, à une limite près, qui est que reste toujours en France, chez les plus de 65 ans, à peu près 3 à 4 millions de personnes qui ne sont pas encore vaccinées, qui, elles, sont sensibles, qui pourraient malheureusement faire des formes graves et entraîner un problème. Et il faut savoir que pour faire une vague, comme on l'a vu précédemment, il faut infecter à peu près 5 à 10% des Français. Et là, avec 3 à 4 millions, on est justement à 7% des Français. Donc il faut absolument se focaliser sur ces personnes si vraiment on veut éviter cette saturation et toutes les mesures de blocage que ça pourrait entraîner à la rentrée.
Parce qu'on parle des jeunes, on parle des fêtes qui vont dans les boîtes de nuit et qui du coup sont à nouveau contaminés. En fait, il faut cibler les plus de 65 ans sur l'effort vaccinal.
Oui, par rapport à ce que votre première question, Laure, c'est-à-dire la vague. Maintenant, pour aussi limiter cette vague, il faut diminuer la circulation du virus. Alors certes, les moins de 25 ans font des formes qui sont moins graves. Malheureusement, il en existe certains qui font des formes graves, voire même des Covid longs. Mais quand même, c'est moins marqué en hospitalisation. Mais ça fait circuler le virus de manière importante. Or, ce qui va se passer, c'est un peu ce qui s'est passé l'année passée. C'est-à-dire que pendant l'été, les groupes de jeunes, entre guillemets, étaient entre jeunes en vacances, les groupes de moins jeunes entre moins jeunes. Ça a bien circulé parmi les groupes de jeunes. On a eu des gros clusters, en particulier à la rentrée, en particulier au Toquet, je ne sais pas si vous en souvenez. Et après, tout ce petit monde se rencontre à la rentrée. Et à ce moment-là, même si les jeunes n'ont pas eu trop de problèmes avec la maladie, ils vont contaminer les parents, les grands-parents, qui, eux, ne sont pas encore vaccinés. Et c'est là que peut se poser le problème. Donc, il faut prendre le ruban par les deux bouts, c'est-à-dire couper le bout qui risque d'entraîner une charge des hôpitaux et couper le bout qui facilite la circulation. Donc, à ce prix-là, à mon avis, on aura probablement des mouvements, des augmentations de contamination, mais pas nécessairement les répercussions qu'on a connues précédemment. Mais vous savez, je suis toujours très optimiste.
Oui, moi aussi.
Laurent, un peu moins.
Oui, moi, ça, c'est, j'avoue que les alertes des médecins là, et du gouvernement ont un peu calmé mon insouciance. Mais est-ce que du coup, en vous écoutant, Philippe Amouyel, il faut se dire que le gouvernement n'a pas d'autre choix que d'imposer de nouvelles restrictions? Alors, quand je dis restrictions, c'est peut-être contrôle sanitaire aux frontières, peut-être des restrictions d'activité pour les non vaccinés. Est-ce qu'on va tout droit vers ça, mine de rien ?
Je pense que si on n'arrive pas à vacciner un maximum de population en fonction des ciblages que j'évoquais précédemment, il va falloir quand même éviter des mesures massives nationales. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes vacciné, vous n'allez pas le supporter. Si vous êtes vacciné, si vous voyez votre famille qui est vaccinée, vos parents, vos grands-parents, et que vos enfants sont sortis de l'école depuis 15 jours, vous pouvez tomber le masque et avoir une vie quasiment normale dans votre cellule familiale. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas vacciné, à ce moment-là, hop, tout le monde doit porter un masque. Quoi qu'on se pose la question de savoir si c'est pas que le non-vacciné qui doit porter un masque. Donc, les gens vont avoir du mal à supporter ces éléments. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer de freiner au maximum la mise en œuvre de telles mesures. Une des mesures, c'est la diminution du déplacement, parce qu'on sait que c'est par là que rentrent les variants. Alors, on parle du Delta, mais il y en a d'autres qui piétinent aux frontières, hein, et en particulier le Delta Plus, moi qui m'inquiète assez, là pour le moment, il n'y a que quelques cas, voilà, ça va. Donc il faudrait éviter qu'ils pénètrent plus, en particulier dans les lieux où il y a du monde. Et l'idée de restreindre d'une manière ou d'une autre les mouvements, on parle actuellement d'Espagne et du Portugal, hein, comme vous l'évoquiez, mais éventuellement vers d'autres pays, est un moyen. L'idée de limiter la circulation en obligeant les gens, quelque part, à présenter un pass, alors vaccinal ou sanitaire, à jour, est un élément aussi important qui permet d'éviter des mesures massives nationales à 100% de la population pour à peu près 30 à 40% de personnes à risque ou même moins 30% de personnes à risque.
Philippe Amouyel, j'imagine que vous avez pris connaissance du sondage Elabe paru hier, disant que grosso modo deux tiers des Français étaient favorables à la vaccination obligatoire pour tout le monde d'ailleurs, en population générale, voire à des restrictions d'activité pour les non-vaccinés. C'est intéressant parce que finalement, d'un point de vue politique, il y a quelques mois, le gouvernement a été amené à écouter plus les anti-vaccins ou les hésitants. Aujourd'hui, peut-être qu'on change de séquence politique. Le gouvernement va devoir écouter ceux qui veulent être plus durs avec les non-vaccinés.
Alors, c'est tout à fait vrai, hein. Alors, on peut imaginer quand même que les 60% dedans, il y a déjà au moins les 54% de gens qui ont reçu leur première dose de vaccin.
En disant,
voilà, moi, je suis allé dans cette direction, j'ai fait un effort, j'étais un peu hésitant, j'y suis allé quand même. Je comprends pas que l'autre y aille et finalement, on limite à terme ma liberté si jamais la reprise épidémique réapparaît. Donc, je pense que ces schismes qu'on commence à avoir dans notre société, moi, je le sens sur les réseaux sociaux. Avant, quand je passais, on me disait, oh là là, vous êtes pro-vaccin, pro-ceci, voilà. Maintenant, on me dit, mais monsieur Amouyel, vous n'insistez pas, soyez pour l'obligation vaccinale.
Donc, ah oui, vous êtes trop mou maintenant.
Ouais, c'est ça. pour les médecins, ok, ça va, mais moi, personnellement, je pense que pour la population générale, dans l'état actuel des conditions, dans l'état actuel de la France, des restrictions sociales qu'on a subies, je crois qu'il faut peut-être éviter cette obligation vaccinale pour tout le monde. En revanche, il faut mettre le paquet, un, pour limiter la dissémination du virus, et deux, vacciner ces populations qui en ont le plus besoin pour éviter qu'on ait à mettre ces mesures en place à la rentrée.
Ouais, aller chercher les 3 millions de plus de 65 ans qui ne sont pas vaccinés.
C'est ce qu'il commence à faire. Là, le gouvernement actuellement coche toutes les bonnes cases. Hein. Il met en place toutes les bonnes mesures. Il l'a fait suffisamment tôt. Rappelez-vous, je dis toujours qu'on n'anticipe pas assez. Là, on a bien anticipé. Dès qu'il y a eu quelques cas dans l'EHPAD des Landes, tout le monde est descendu. Le Premier ministre, il y a eu beaucoup de battage de ressort. Et c'était important. On a fait de la vaccination réactive. Et si vous regardez, ils sont retombés en dessous du seuil hein, dans les Landes. Ils sont retombés en dessous du seuil d'alerte. Donc, ça marche. On anticipe. Maintenant, il faut tout faire pour ne pas se faire ou reconfiner ou recouvre-feuiser. Enfin, voilà.
À mon avis, c'est moins crispant effectivement que l'obligation ou les injonctions à la vaccination massive. Là, ce qui est dit me paraît raisonnable. Il y a encore 30% de la population à risque qui n'est pas vaccinée. Je pense qu'il faut la cibler, l'encourager à aller se faire vacciner le plus vite possible. Ça me paraît être la solution de bon sens en faisant de la pédagogie. Je rappelle que au début, il y avait une minorité de Français qui souhaitaient se faire vacciner. Aujourd'hui, c'est très largement majoritaire. Donc, je pense que le travail de conviction peut continuer à payer. Peut-être peut-il être un peu plus ciblé par rapport aux personnes effectivement à risque, plutôt que de vouloir vacciner les nourrissons. Je plaisante.
Personne ne veut vacciner les nourrissons,
mais voilà, ces derniers jours, les enfants, etc. Je pense que ça, c'est ce type de discours crispe la société et ça apparaît comme quelque chose d'autoritaire et de moralisateur.
Attends, je suis obligé de te contredire. Ce qui crispe visiblement les Français, c'est ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Ce n'est pas le contraire. Justement,
mais
on a
là,
changé de période.
Mais là, c'est ce qui crispe les non-vaccinés.
C'est les non-vaccinés,
le
c'est eux qui font
combattre.
Oui.
Et donc, c'est pas je sens les Français les uns contre les autres, on va y arriver.
Je pense que tu sous-estimes la colère qui monte chez les vaccinés de voir des gens qui ne se vaccinent pas pour de mauvaises raisons. Et si demain, écoute bien, si demain, le gouvernement, pour une raison ou pour une autre, doit prendre des mesures à nouveau restrictives des libertés, là, la fameuse fracture vaccinale dont parlait Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, là, elle va arriver. Mais elle va être inversée. Il y a quelques mois, c'est les non-vaccinés ou les hésitants devant le vaccin qui faisaient la loi, si j'ose dire. Demain, c'est peut-être le contraire qui va arriver. C'est les vaccinés qui vont demander au gouvernement de prendre des mesures contre les non-vaccinés.
Je ne sous-estime pas les fractures françaises, elles sont déjà nombreuses, mais simplement, je ne voudrais pas en ajouter une sur la fracture vaccinale. Donc,
non, mais ne serait-ce
on peut l'anticiper,
toi,
mais il ne faudrait pas la faire monter, Laurent Neumann, en dressant les Français les uns contre les autres. Oui. C'est un peu ce qu'on fait là.
Je ne crois pas
que la stratégie de la pression marche. Je pense que la stratégie du rassemblement sur un objectif commun va fonctionner.
Il y a moins d'un quart d'heure, c'est toi qui appelais les gens à se faire vacciner par patriotisme.
Exactement.
Donc,
objectif commun.
Donc,
en disant qu'ils sont de mauvais citoyens.
Excuse-moi, si tu dis c'est patriotique de se faire vacciner, tu dis donc par antithèse que ceux qui ne se vaccinent pas sont de mauvais patriotes. C'est pas moi qui le dis, c'est toi.
Non, je n'ai pas dit ça.
Alexandre, tu dis que c'est un argument qui marche.
J'ai dit qu'il fallait se rassembler, expliquer que c'était un objectif commun et que ça allait nous permettre de nous relever de cette crise le plus vite possible. Mais je ne crois pas que ce soit en stigmatisant ceux qui ne sont pas vaccinés qu'on va y arriver, ni en dressant les uns contre les autres.
C'est ce qui pourrait
arriver de pire à ce pays.
Quel est l'argument, Philippe? Il nous faut l'argument le plus efficace, Philippe Amouyel. Le patriotisme, ça peut fonctionner. Je vous avoue qu'ici, on a un peu tout essayé. Hein.
Non, je pense que, à mon avis, l'argument le plus efficace, c'est que on veut éviter que ce qu'on a connu au cours des 16 derniers mois se reproduise. Mmh. Alors, quel que soit le motif, quelle que soit l'organisation, c'est-à-dire que l'arme que l'on a aujourd'hui, c'est la vaccination. Donc tous les volontaires qui ont voulu se faire vacciner l'ont fait. Je pense qu'il reste encore une frange de gens qui procrastinent. Vous voyez, ils repoussent. Ouais, je le ferai la semaine prochaine. Oui, j'ai pas le temps, oui. etc. Donc peut-être que l'été, la simplification de la vaccination, la possibilité de se faire vacciner sur son lieu de vacances, le fait d'avoir des vaccibus, de voir des petites manifestations comme ça va aider à en récupérer quelques-uns. pense qu'également, l'autre élément énergétique, il faut tout faire. Si vous avez une personne âgée qui n'est pas convaincue, trouver un petit-fils ou une petite-fille qui s'est fait vacciner, ou un fils ou un fils éloigné, et aller lui expliquer. Parce que vous avez vu l'abstention qu'on a eue, donc il y a un manque de confiance dans le gouvernement. Donc l'idée, c'est justement trouver des personnes de confiance pour que tous ces hésitants puissent aller se faire vacciner le plus vite possible, idéalement avant la fin du mois d'août.
Merci beaucoup Philippe Amouyel d'avoir été avec nous, professeur de santé publique au CHU de Lille. On va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et au 32-16, beaucoup de gens sont inquiets pour leurs vacances. C'est le cas de Simon et de Romain qui nous attendent. Simon, toi tu es à Pau, tu es chauffeur, livreur, tu pars en Catalogne et au Portugal cette année. Pas question de te priver de vacances.
Salut à tous.
Salut Simon.
Non, hors de question. J'ai fait l'effort de me vacciner. Moi, j'estime que je peux partir en vacances au Portugal et en Espagne. Donc, tu vois, Laurent, ce que tu disais tout à l'heure, que c'est les non-vaccinés qui font la loi aujourd'hui, mais tu as tout à fait raison. Là, en fait, moi, on vient, pour être poli, me casser les pieds à moi, parce qu'il y a le virus qui recommence à circuler. Et pourquoi le virus il recommence à circuler? Parce que les gens n'ont pas fait l'effort d'aller se vacciner. Oui. Correctement.
Sauf qu'on rappelle que le virus circule même vacciné. Hein.
Oui, non, mais d'accord.
En Grande-Bretagne, il circule beaucoup, alors que tout le monde, pratiquement, qui a 80% de vaccinés ou
l'intérêt,
au moins 80%
de première
dose.
C'est de ne pas faire de forme grave.
D'accord, voilà. Mais déjà, si on fait ça, voilà, il n'y a pas de forme grave, on ne bouge pas les hôpitaux et on peut faire quelque chose correctement. Donc moi, j'ai fait l'effort, j'ai réservé, j'ai payé une blend. On part voir ma famille à Barcelone. Après, on va à Rosas, donc en plein milieu de la Catalogne, quoi. Là, on va au Portugal, dans la famille de ma copine. Mais je fais quoi? Je me prive parce que le virus, il recircule. Donc, voilà. Donc, en fait, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ont gagné. Ils font la loi. Parce qu'en plus, Laurent, tu as raison. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est des arguments à la noix. C'est toujours les mêmes choses. Donc, en plus, oui, machin, le vaccin, ceci, cela. Tu as dit hier, je ne sais plus, hier ou avant-hier, qu'il y a eu quelqu'un qui t'a appelé par rapport à ça. Tu m'as posé la question, il y a combien de morts du Covid? 110 000 morts. Il y a combien de morts du vaccin? On n'en sait rien. Enfin, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Les gens, ils ont plus peur du vaccin que du virus. Mmh. Donc, excusez-moi, mais moi, maintenant, j'en ai marre. Ce n'est pas les non-vaccinés qui vont faire la loi. On se vaccine. Parce que si les gens ne se vaccinent pas, ça sera tout le temps comme ça. C'est-à-dire le variant Delta, le variant
Mais les Delta gens, plus, les gens seront le en train de se faire vacciner. Je pense que on dramatise la situation, alors qu'on voit bien que effectivement le virus circule. Et encore une fois, il continuera à circuler. Parce que certes, il circule moins vite avec le vaccin, mais il circule quand même. On le voit en Israël, on le voit aux États-Unis, on le voit en Grande-Bretagne. Mais les cas graves, il n'y en a plus. Donc, tout va bien. Enfin, tout va bien. Il faut rester prudent, mais continuer et pas commencer à se crisper et à s'affronter.
Merci beaucoup, Simon, d'avoir été avec nous. En tout cas, toi, ça ne changera rien pour tes vacances. On sera dans un instant avec Romain. Romain, lui, doit partir en Tunisie avec ses enfants. Il ne sait pas quoi faire et l'agence de voyage ne veut pas annuler. Il va nous raconter son cas dans un instant. Vous ne bougez pas. Neumann Le Chypre sur RMC. On revient.
RMC, midi, 14h. Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Le gouvernement recommande d'éviter le Portugal et l'Espagne. Le variant Delta va-t-il gâcher vos vacances? C'est notre question pour Alexandre Devecchio. C'est non, les hospitalisations n'augmentent pas. Ils n'écoutent pas les alarmistes. Laurent Neumann, oui, les alertes des médecins, justement, et du gouvernement ont déjà calmé son insouciance. Ça veut dire que le gouvernement commence sérieusement à s'inquiéter. Écoutez Gabriel Attal, le porte-parole.
Le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse. Une augmentation de plus de 20% en 7 jours. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas détectés pour 100 000 habitants, a augmenté de 21%. Chez les 20-29 ans, le taux d'incidence a pratiquement doublé en une semaine. Cette situation est liée en France, comme dans le reste du monde, au variant Delta, qui est beaucoup plus agressif que les variants précédents et qui continue sa progression. Il représente aujourd'hui plus de 40% des contaminations dans notre pays. Et nous constatons ainsi que la part de ce variant Delta dans les contaminations en France a doublé chaque semaine depuis 3 semaines, puisqu'il y a 3 semaines, il représentait 10% des contaminations dans notre pays. La semaine dernière, je vous indiquais qu'il correspondait à 20% des contaminations. Et cette semaine, nous sommes donc à 40% des contaminations dans notre pays liées au variant Delta.
Voilà pour le point sanitaire. On va aller voir comment vous organisez vos vacances en votre 32-16.
RMC Neumann Le Chypre
32-16. On est avec Romain qui est câbleur informatique qui nous appelle du Plessis-Bouchard dans le Val d'Oise. Bonjour Romain.
Oui, bonjour tout le monde.
Toi, salut, tu Romain. Dois partir en Tunisie. En Tunisie, le variant Delta progresse très largement. Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu comptes bouleverser ton calendrier?
Alors, je vais vous expliquer un peu mon histoire. En fait, c'est qu'on a réservé en janvier 2020. Oui. Donc, avec Corsica Ferry, donc ma femme est d'origine tunisienne, donc on voulait pas partir en vacances, il n'y avait pas encore le coronavirus. Et on a réussi à reporter l'année dernière, mais là, cette année, il va rien savoir, on peut pas reporter, on peut pas annuler. Donc, c'est soit on va là-bas, soit on perd notre argent.
Qu'est-ce qu'on te demande à l'entrée en Tunisie?
Des tests PCR négatifs.
Ou un certificat de vaccination, j'imagine.
Ou un certificat de vaccination, ouais.
Et vous êtes vacciné ou pas?
Non, pas encore.
Et alors, qu'est-ce que t'attends?
Dans pas longtemps, ma femme vient de commencer un nouveau boulot, elle a pas trop de temps pour qu'on aille se faire vacciner, mais
Romain, attends, ça prend 10 minutes d'aller se faire vacciner.
Non, bien sûr, ça c'est pas le problème, mais le problème c'est pourquoi envoyer les gens dans des pays où le variant Delta c'est une catastrophe.
Là, Romain, il faut que tu commences par prendre rendez-vous, te vacciner.
Et oui, déjà, la bonne nouvelle, et c'est quand même, il n'y a pas meilleure nouvelle que ça, le vaccin répond au variant Delta. Donc, on est vacciné, oui. Le variant Delta, c'est plus une crainte. C'est fini.
Non, je suis d'accord avec toi, Laurent.
Tu peux aller où tu veux.
Après, moi, je ne veux même pas aller à l'étranger, en fait. J'aurais préféré partir en France. Nous, on comptait reporter, mais vu que la Tunisie, elle ouvre ses frontières, on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. Sinon,
non, mais Romain, que tu ailles.
Il aurait préféré ne pas faire ces vacances-là et faire autre chose.
Je ne serais même pas allé. Ouais.
Non, mais Romain, que tu ailles en France, en Tunisie ou n'importe où, c'est pareil.
Oui, le variant Delta est là aussi en France.
En ce moment, c'est moins grave en France qu'en Tunisie. Regarde l'actualité de la Tunisie, tu vas voir, là-bas, c'est catastrophique.
Ouais, mais encore une fois, je te le répète, une fois que tu seras vacciné, tu pourras dormir sur tes deux oreilles.
Non, mais Laurent, même vacciné, je ne serais pas allé, en fait.
Ah oui.
Tu vas pas y aller.
Je vais pas aller.
Donc là, vous y allez pas, vous allez perdre l'argent.
Si on n'y va pas, on perd l'argent, ouais.
Et tu te laisses jusqu'à quand pour prendre une décision?
J'espère que la Tunisie va fermer ses frontières.
Encore une fois, tu vas te trouver obsessionnel, hein. Mais encore une fois, l'alternative, c'est pas j'y vais pas. C'est que dès que tu es vacciné, tu peux y aller les yeux fermés.
Non, jamais, Laurent. Mais je sais pas. Imagine que même vacciné, j'attrape le Delta.
Et alors, tu ne risques rien.
Je reste bloqué là-bas.
Mais non, tu ne risques rien. Tu ne risques pas de tomber malade. C'est quand même la santé le premier sujet.
Quand mon test PCR il va être positif, je vais quand même être bloqué là-bas. Ils vont pas vouloir que je reparte de là-bas tant que je suis positif, en fait.
Ben non, parce que tu montreras ton certificat de vaccination.
Mais t'as énormément. Tu sais que le certificat de vaccination ne suffit pas dans plein de compagnies qui te demandent quand même PCR.
C'est là où tu insistes beaucoup, hein, je comprends, mais c'est pas un gage de retour en France.
Le truc, c'est que toi, t'attends que la Tunisie ferme ses frontières et.
J'aimerais bien, ouais, mon départ est prévu.
Ça fait beaucoup d'aléas.
J'aimerais bien que d'ici là, ils ferment leurs frontières, qu'on soit au moins. Moi, je demande même pas un remboursement, je demande un report, en fait. Qu'on puisse reporter à l'année prochaine ou à l'année d'après.
Ils veulent plus, ouais.
Oui.
Ouais, alors que si la frontière est fermée,
je comprends. Je vais partir à l'étranger, en tout cas.
Je comprends, mais en attendant, on va te vacciner, Romain, bon sang.
Ouais, bien sûr.
Bon rendez-vous, Romain. Merci beaucoup, Romain, d'être venu nous parler de tes vacances. Salut. On espère que ça va s'arranger pour toi. On est avec Sébastien qui nous appelle d'Épagny-Mestessis. C'est en Haute-Savoie. Bonjour, Sébastien.
Bonjour, oui, c'est un petit village.
Toi, tu es commercial. Comment doivent s'organiser tes vacances?
En fait, on est totalement dans le brouillard. Donc, on part avec un couple d'amis et ses deux enfants. On est 7 en tout. Et on est vacciné, hein, je précise. On a des enfants de moins de 12 ans, donc on a plutôt suivi le protocole classique. Et sauf qu'en fait, on voit la situation se dégrader au Portugal et on ne sait pas trop comment réagir. Alors j'entendais tout à l'heure Simon qui était assez...
Il disait j'y vais, je m'en fiche, vous me gâcherez pas mes vacances.
Mais nous en fait c'est pas ça, c'est que on craint plus par rapport aux restrictions qui vont nous être dictées en nous disant il va falloir respecter une quarantaine potentielle. Donc derrière, ça va nous gâcher. On se pose la question de savoir que si on y va, pour que ce soit gâché et que les restaurants soient fermés, malheureusement, avec le prix qu'on a mis, j'espère qu'on va quand même en profiter pleinement. Et là, me dire que demain, on va être restreint à certaines obligations, j'ai envie de dire, on se pose la question, quoi. Donc, je disais tout à l'heure qu'on n'a même aucune info au niveau de, des ambassades. Donc, ouais. En fait, ils ne répondent pas. Ils préviennent d'entrée de jeu que pour les touristes, en fait, et avec le Covid, en fait, on n'a pas d'assistance téléphonique pour savoir, pour nous guider. Et je t'avoue qu'aujourd'hui,
si je comprends bien, avec le vaccin, tu es protégé sur le plan de ta santé. Mais en revanche, une fois que tu seras au Portugal, tu ne sais pas si les lieux de loisirs seront ouverts. Bref, si tu pourras passer des vacances sympas, quoi.
Exactement. Et donc, la finalité de tout ça, c'est qu'on a jusqu'à vendredi, jusqu'à demain ou lundi, pour statuer. Parce qu'après, sinon, ce qu'on a mis et ce qu'on a investi dans ces vacances-là, bien évidemment, que ce ne sera pas remboursé. Donc là, il faut qu'on se pose, pour qu'on se dise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? En se disant que potentiellement, on y va, mais que derrière, on va pouvoir rien faire. Ou à ce moment-là, on reste à la maison et puis on annule et puis on n'aura aucun plan B parce que derrière, forcément, trouver des vacances à cette période-là, un, on va payer cher et deux, pourquoi?
Oui, alors que
est-ce que tu nous demandes de trancher? Tu veux qu'on tranche ou pas? Moi, j'irai quand même. Moi, j'irai quand même. Franchement, on a trop besoin de prendre l'air.
Pour être franc, en fait, on va voter. Et quand je te dis on va voter, on ne veut pas s'influencer.
C'est démocratique.
J'ai pas voté aux dernières élections, mais on va quand même voter de manière collégiale, par Skype. On va
anonyme ou pas le vote?
Les enfants ont le droit de vote ou pas?
Non, ils n'ont pas le droit de parole. Non, on n'a pas le droit de parole, d'accord. on va tous lever les pancartes et puis on va tous se dire aussi parce qu'il faut pas que, on va dire, moi perso j'ai un avis. Mais j'ai pas forcément envie d'influencer qui que ce soit et de se dire derrière on y est parti puis au final on peut rien faire, on peut pas aller dans un resto, etc.
Non, mais là donc, tu peux nous donner ton avis, on est sur RMC, il y a quelques millions de gens qui t'écoutent seulement.
Ouais. Là ça tiendrait qu'à moi, je pense que j'irai quand même.
Il faut y aller, c'est un beau pays, le Portugal.
Ici on est déjà deux, Laurent, tu lui dis faut y aller ou pas?
Moi j'irai aussi.
Nous on vote tous pour y aller.
Pour une bonne et simple raison, que j'espère que ce passeport vaccinal européen qui a été mis en place depuis début juillet ne sert pas à rien.
Exactement.
Ils l'ont mis en place le début juillet. Je serais surpris que fin juillet, ils nous disent vous êtes vacciné, vous avez tout fait, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et puis derrière, on vous astreint à rester dans votre logement pendant 10 jours. Et
Sébastien, pardon, tu as réservé un appartement, une maison ou tu vas à l'hôtel?
Maison, ouais.
Tu veux savoir s'ils y vont, tu vas avec eux ou...
Mais non, c'est pas ça. C'est que si t'es dans une maison, au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Au pire, les restos sont fermés. Au pire, t'es quand même chez toi, tu peux faire la cuisine.
On est dehors. Un petit couvre-feu pendant tes vacances, c'est quand même beaucoup moins drôle.
Ça va être sympa.
Ouais, mais ça gâche quand même, quoi, de se dire qu'on va pas.
Oui, je comprends.
Oui, c'est clair, c'est pas pareil. Ça, c'est clair. Sébastien, tu nous diras ce que t'as décidé.
Ça va rester ouvert au Portugal, j'en prends le pari.
Alexandre, tu t'engages ou tu prends juste le pari?
Tu sais quoi, Sébastien?
Je lui rembourse ses vacances.
Alexandre, tu donneras ton adresse email comme ça, si tu as un problème, tu enverras la facture.
Avec un rib. Merci beaucoup, Sébastien, d'être venu débattre avec
lui.
Bonnes vacances à toi. J'espère que tu vas pouvoir partir. Lisa Marie, quel est le résultat définitif?
Vous êtes finalement 67% à avoir répondu non. Le variant Delta ne va pas gâcher vos vacances. Vous êtes plutôt optimiste comme Alexandre.
Et c'est une bonne nouvelle.
Moi, j'aime quand les Français sont optimistes.
Même quand ils ne sont pas d'accord avec toi. Absolument. Allez, on va jouer au C'est quoi ça?
RMC, Neumann Le Chypre.
Le C'est quoi ça?
Je viens d'entendre Alexandre qui a dit oh là là.
Mais
pas grâce à toi. Toi aussi, grâce au candidat.
C'est une victoire au tir au but.
C'est ça. On joue aujourd'hui avec Adil et André. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Laure.
Bonjour.
Bonjour Laurent.
Salut les garçons.
Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Salut à tous. On joue pour gagner un week-end dans les hôtels Baladins. C'est ça, hein, Laurent.
C'est bien les hôtels Baladins.
Pour deux personnes. Adil, tu es le premier à avoir envoyé ton SMS. Tu veux jouer avec Laurent ou avec Alexandre?
Avec Laurent.
Salut Adil.
Adil, Laurent et André, tu es avec Alexandre. C'est parti, première question entre André et Adil. Vous buzzez votre prénom avant de donner votre réponse. Quelle équipe s'est qualifiée pour
André,
la... André,
Adil.
André.
Angleterre.
Oui, la contre qui?
L'Italie.
Au Wembley Stadium. Premier point pour André. Question entre Laurent et Alexandre. Quelle loi entre en vigueur aujourd'hui en Hongrie?
Laurent.
Vas-y.
la loi qui interdit de faire la promotion de l'homosexualité pour les plus jeunes.
Auprès des mineurs, absolument. Un point partout. Question entre Adil et André.
Loi scandaleuse, hein, par ailleurs.
Après le bac, c'est l'heure des résultats pour des milliers de collégiens en France.
Le brevet, Adil.
Adil, le brevet, absolument. 860 000 collégiens ont passé le brevet. On est à 2 points pour Adil, 1 pour André. Question entre Laurent et Alexandre. Qui est Eric Adams?
Laurent.
Vas-y.
C'est le futur potentiel maire de New York.
Oui, et il faisait quoi avant?
Il était policier, figure-toi.
Oui, absolument. 3 points. Mais qu'est-ce qu'il est cultivé, ce Laurent Neumann? C'est vraiment époustouflant.
Mais non, il lit tout.
Oui, bah justement, c'est pareil. Question entre Adil et André. Quel ancien...
André.
Vas-y.
Éric Dupond-Moretti. Non, la question, c'est...
Pas la question, ouais. C'est quoi la question,
ouais. On dirait le chiffre.
C'est une bonne technique.
On dirait le chiffre.
Alors, c'est pas ça. Je fais quand même la question. Quel ancien Premier ministre va rejoindre RMC à la rentrée?
Adil. André.
Adil.
Adil.
C'est Manuel Valls.
Oui, Adil, il est déjà à 4 points. Question entre Alexandre et Laurent. Quelle épreuve très redoutée du Tour de France a fait abandonner 7 coureurs hier?
Laurent. Mouvement tout, Alexandre, mouvement tout.
Malheureusement, c'est Laurent qui a donné son prénom avant.
Oh.
Bah oui, mais je te jure. Alors, c'est quoi, Laurent?
Alors, oui, c'était le Mont Ventoux, mais c'est quoi la question? La question, c'est quelle était l'étape d'hier?
Oui, l'étape très redoutée.
C'était Sorgues-Malocène et on passait 2 fois le Mont Ventoux.
Pour ceux qui ne nous voient pas, parce que nous ne sommes qu'en radio aujourd'hui, oui. On ne voit pas que tu as des notes sur un cahier et que tu regardes tes antisèches,
oui,
qui est quand même un petit peu scandaleux.
Malocène.
Oui, oui, donc tu prends donc des notes pour le C'est quoi ça? Dernière question. Mais...
Est-ce que j'ai bon?
Oui, tu as bon.
Ah, bah
bravo,
voilà.
Bravo à toi, Laurent. Dernière question entre Adil et André. Quelle actrice française découverte dans La Boum a illuminé? Pas à toi de jouer, Alexandre. Vas-y, André.
Sophie Marceau.
Oui, c'est Sophie Marceau, absolument.
Mais c'était quoi la question?
Elle était au Festival de Cannes hier, c'était qui? Voilà, elle a joué dans La Boum, c'était ça la question.
Mais c'est de plus en plus dur les questions.
Bah oui, c'est dur, il fallait avoir vu le Festival de Cannes hier. C'est donc une victoire d'Adil qui gagne 5 points à 2.
Bravo Adil.
Bravo.
Merci à toi, Laurent. Ah bah écoute, non, t'as tout fait, j'ai rien fait.
Tu gagnes ton week-end dans les hôtels Baladin. Tu vas pouvoir choisir entre la campagne ou la ville ou la mer. Je prendrais peut-être plutôt la mer.
La mer. En France?
C'est important. En France, c'est absolument. On rejouera demain, c'est quoi ça? Merci à tous les deux d'avoir joué avec nous. Dans un instant, restez avec nous. On va continuer à parler crise sanitaire sur RMC. Interdiction d'accès à certains lieux, interdiction d'exercer une profession. 61% des Français sont favorables à des restrictions pour les non-vaccinés. Ils changent d'avis. Les Français. Alors vous, qu'en pensez-vous? Laurent Neumann est pour. Si on ne veut pas de la vaccination obligatoire, il n'y a pas d'autre choix. Alexandre Devecchio est contre. C'est une atteinte trop forte aux libertés. On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.